bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Avec Léla Kadobo, Daniel Morin,
Jean-Nagui,
Guillaume Moguiz, Tanguy Passereau sera là tout à l'heure et notre invité, monsieur Philippe Delerre. Bonjour Philippe, bienvenue Bonjour. Dans cette émission qui est un peu la vôtre. Nous l'avons déjà.
Je me sens un peu chez moi, c'est vrai.
Exactement.
Nous l'avons déjà. Pas trop quand même.
Hein. Non,
retirez vos chaussures.
Nous l'avons déjà dit lorsque nous vous avions accueilli. Et comme nous entamons cette sixième saison Dingue. Avec beaucoup de bonheur sur Inter, vous aviez eu l'élégance, la gentillesse et l'inconscience d'accepter de faire ce qu'on appelle dans ce métier une maquette, un pilote, c'est-à-dire une émission qui ne passe pas à l'antenne. Que les auditeurs n'entendent pas, mais qui nous permettait nous de nous caler, de voir
c'est
si
c'est le patient zéro, quoi.
Exactement.
Qui va être diffusé aujourd'hui.
Voilà, exactement. Bonne journée.
Sans blaguer, je sais pas si on l'a. Ça c'est tellement drôle à réécouter.
Oui.
Mais tellement différent, surtout parce que c'est, les choses ont évolué. Oui. Bref, merci d'être là.
Vous aviez été aimable.
Vous.
Et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé.
je n'avais pas la suffisance des résultats d'audience de cette émission. L'extase du selfie, c'est ce que vous signez au seuil et autres gestes qui nous disent, c'est-à-dire donc qui nous analysent ou qui nous trahissent.
Oui, qui nous trahissent ou qui nous révèlent. Enfin, c'est bon, sur les publicités, ils mettent qui nous trahissent parce que c'est peut-être un peu plus vendeur. Mais en fait, c'est comme souvent chez moi un mélange de tendresse et de moquerie. Enfin, bon, certaines sont un petit peu plus peut-être abruptes que parfois. Oui, c'est vrai.
Oui, alors vous êtes passé des plaisirs minuscules au tic très moderne d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, il y a les selfies notamment. Évidemment, c'est dans le titre, mais il y a aussi les CD, les remarques sur les vinyles. Il y a une part aussi de comme ce que nous prenions le temps de faire avant et ce que nous faisons aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des remarques qui me viennent aussi du fait que moi, bon, je suis pas très très technique, mais ben, je vois les gens vivre autour de moi. J'aime bien être spectateur du monde, c'est assez jubilatoire en fait de se sentir vraiment faire partie d'une époque et de la regarder, d'essayer de saisir des choses qui sont un peu qui traduisent un certain éternel humain, qui est des choses qui sont toujours vraies un petit
mais
peu.
Mais du coup, vos proches, vos intimes, ils osent toujours bouger devant vous. c'est ça. C'est... Non, je peux pas faire ça.
Faire un selfie.
Il va interpréter.
Ben en fait, je reconnais que la plupart des gestes que j'évoque, quand je les évoque pour des gens que je connais, ils sont plutôt sympas ou tendres. Et c'est vrai que, par exemple, les conducteurs qui conduisent avec la paume de la main, ouais. Ça, j'aime pas trop. Et il se trouve que ma femme n'a pas son permis et que Vincent ne conduit pas. Donc voilà, le risque est limité.
Ah oui, donc ils s'interdisent de conduire avec la paume de la main.
Ben voilà, ils s'interdisent même de conduire tout court.
Mais c'est vrai que la modernité du smartphone et donc du selfie ou du vapotage versus la cigarette ou des CD, des MP3 versus les vinyles avec les pochettes qui s'ouvrent. Enfin, il y a quand même
un regard sur aujourd'hui et un peu par rapport au passé.
On va en parler avec vous, donc Philippe Delerme, au seuil, l'extase du selfie et autres gestes qui nous disent. Mais cette interro va nous dire aussi pas mal de choses sur Philippe Delerme. Adolescent, quelle habitude familiale du dimanche détestait Philippe Delerme ?
La messe ?
Non.
La promenade ?
Le quoi ?
Le poulet ?
Le gigot.
La promenade de l'après-midi, le poser la Alors table, le repas familial.
C'est plus précis que le repas.
C'est l'apéritif. L'apéro, ouais.
C'est le repas, mais quel genre de repas ?
Le repas du dimanche.
Ah, le très très long.
Le repas devant la télé.
Alors justement, c'est le lieu.
C'est dans le jardin ?
Non.
C'est dans le salon ?
Salle à manger.
Chez les grands-parents ?
Non. À la cave ? Non, mais c'est pas ça, c'est ta vie. Ça.
Non, il est belge, c'est pareil. Belge.
Les déjeuners sur l'herbe ?
Non. Les déjeuners en paix, le petit déjeuner. Il faut avoir les moyens. Hein. Ça, les références sont pas les mêmes.
Stéphane Echer, France.
C'est joli.
Donc, c'est un rapport avec la nourriture. Ouais,
c'est le déjeuner, oui. Du dimanche, oui, mais
chez les grands parents,
très lourd. En famille, mais l'endroit.
L'endroit.
À la campagne.
Non.
À la ville.
Non.
Dans le salon, dans la cuisine.
Non,
dans le,
non.
Dans, entre enfants, sur les côtes. Qu'est-ce qu'on fait dans
sur
une
le
maison.
Palier.
Où est-ce qu'on déjeune?
Les barbecues. Enfin
bah, c'est pas chez toi.
Chez les voisins, chez les amis. Pardon.
Oh là là.
C'est où?
Au resto. Ah. J'ai entendu resto. Non, j'ai cru entendre resto.
Il y a une dame qui l'a dit depuis 2017. Ça fait.
Bah, Jacqueline, un point. Vous notez pour Jacqueline.
Adolescent, on verra pour
bien
les
gens.
Vous, en régie, vous avez
Jacqueline,
suivi. Vous n'aimiez
Pourquoi
pas. Les déjeuners au restaurant, les déjeuners familiaux.
Non, bah pour deux raisons. D'abord parce que c'était nouveau dans la vie de mes parents. Ils sont allés au restaurant très tard Ils étaient instituteurs. Voilà, c'était pas dans les habitudes familiales et sociologiques d'aller au restaurant dans ce type de famille. Et ça l'est devenu un peu sur le tard.
Mais, c'était le cadeau. On est dimanche, donc on va au resto.
Ouais, voilà. Mais pour moi, c'était pas un cadeau parce que mon frère et ma sœur, plus âgés, avaient quitté la maison. Moi, j'étais adolescent et surtout, j'avais envie de rentrer très très vite pour écouter les matchs de foot sur une station
à la radio
concurrente. Voilà. À une époque où les commentateurs de foot disaient cherche un partenaire démarqué, le trouve en la personne 2. Donc,
c'est vrai que c'était joli ça. Ouais. C'est une phraseologie.
C'est quoi? C'est la voix de Saccomano qui vous a bercé au football?
C'était Jacques Dorisvic plutôt. C'était encore d'accord. Plus ancien que ça. Ouais.
Très bien. Par quoi finissait systématiquement Philippe Delerme, professeur à l'école, par quoi finissait-il toujours ses cours?
Une sentence.
Un
adage.
Une prière. Non.
Barrez-vous, bande de cons.
Non.
Un compliment.
Non.
Un petit jet de vomi.
Non plus.
Une blague.
Et la bonne journée.
Une blague.
Pas une blague.
Ah oui, un petit dicton, un petit
poème.
J'ai déjà dit un adage.
Un
proverbe, une morale.
Le poème, je vais accepter de Tom. Parce que c'est un texte, en fait, c'est une lecture à haute voix.
C'est mon premier poème d'année.
Ouais, c'est vrai que, surtout avec les 6e, 5e, et c'était toujours une histoire de petit Nicolas, et c'était un excellent test pour savoir le type de classe devant laquelle j'allais me retrouver. C'est-à-dire que quand une classe ne manifeste rien, bide absolu, quand vous lisez un petit Nicolas, vous vous dites, waouh, l'année va être un peu longuette. Et ça loupe jamais, parce que c'est vrai que, bon, quand ils sont morts de rire, évidemment, on a un petit espoir quand même que ça se passe plutôt bien. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai un petit fils notamment de 9 ans, et quand je lis des histoires de petit Nicolas, il est toujours mort de rire.
Ça marche toujours.
Et la fraîcheur de son rire, je me dis, si Goscinny pouvait voir la fraîcheur de son rire comme ça, c'est chouette quand même.
Mais si votre petit-fils n'avait pas rigolé, vous l'auriez déshérité.
Évidemment.
Bien sûr.
Philippe Delerme a une phobie.
Les araignées.
Non.
La peur de l'eau.
Exactement.
Ouais.
Comme Daniel.
J'ai une sainte horreur de ça.
Alors, ouais. Daniel, c'est dans un verre.
Pour la douche.
Et pur. Ça n'a rien à voir.
Non, même la douche.
Vous, c'est le bord de l'eau, c'est la noyade qui vous fait peur.
Oui, c'est la noyade. Et en même temps, ça induit un rapport avec l'eau qui est assez fascinant quand on a peur de l'eau. Mais j'ai toujours eu peur de ça. J'ai jamais été à l'aise dans l'aliment liquide. Et je tiens ça de ma maman. Donc, je considère ça en plus comme un acte de fidélité par rapport à la mémoire de ma petite maman.
Mais la voile, par exemple, vous interdisez de faire du bateau parce que vous avez peur de l'eau ou il y a quand même quelques plaisirs bretons?
Je m'interdis rien du tout, là, mais parce que ça me tente absolument pas, mais c'est vrai. Donc je suis un peu phobique de plusieurs choses, notamment l'autoroute aussi, mais l'eau en particulier.
Ah oui, non, mais pardon, la voile, c'est le silence d'être en contact avec la nature. C'est l'un des rares endroits avec la montagne où on peut retrouver le silence, qui est quand même quelque chose d'assez magique.
Mais bon, c'est vrai que j'ai déjà une qualité de silence et... pratiquement suffisant.
Pas besoin de prendre le bateau.
Quel objet Philippe Delerme a d'ordinaire toujours dans sa poche?
Un Opinel.
Exactement.
Alors là,
pas aujourd'hui.
Anecdote, alors pas aujourd'hui.
Mais
parce
un portique
que ça
de sécurité.
Ça fait 3 ans que je me fais avoir au portique de sécurité de Radio France. Et alors, et je dis aux gens, par ailleurs très sympathique, mais vous pouvez me le garder au moins pendant l'émission. Ah non, ils ne peuvent pas. Vous allez le cacher devant. Et ça fait 3 ans que j'allais cacher mon petit couteau.
Dans la plante.
Dans les plantes devant.
C'est pas vrai.
Et que je retrouvais à chaque fois.
Ah, mais c'est à vous que. D'accord, ok, pardon.
Cet Opinel, on le retrouve aussi dans l'idée de sculpter des bâtons, des branches. Ouais.
C'est vrai, là, pour le coup, c'est un truc un tout petit peu ancien, mais que j'ai toujours fait parce que j'adore ça. C'est un souvenir un petit peu là d'enfance. Pour le coup, c'est une petite madeleine aussi, mais j'en ai fait aussi à Vincent, et puis j'en fais à mes petits-enfants maintenant, et j'adore. Tout le monde en plus a peur quand je sors mon Opinel.
Dessiner sur des branches de noisetier.
Écrire les noms, les prénoms, et puis et des choses en rapport avec les enfants en question.
Et le noisetier, c'est précis parce que ce bois se prête à ce genre de travaux.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il est assez tendre et en même temps l'écorce est bien résistante. Il y a un petit côté, un petit vert un peu ligneux comme ça qui apparaît, mais c'est assez jouissif de le gratter comme ça et de faire apparaître une chair vraiment très blanche en dessous et d'écrire des choses comme ça, c'est chouette.
Quelle ville au monde ?
Venise.
Bonjour, vous êtes...
Mais il a cadeau. Et c'est à Venise qu'il va chaque année.
Ok, je peux parler ?
Oui, pardon. Merci.
Quelle ville le fait fantasmer au point de ne pas y aller ?
New York.
Il a peur d'être déçu. Bien joué.
Mince. Mince.
Moi, je propose qu'on t'enlève 20 points.
c'était bien quand même d'aller là, parce que c'est vrai que Venise, c'est ma ville.
Bah ouais.
Mais vous y allez, à Venise, alors que New York,
Venise, j'y vais tout le temps.
Attends, il y a beaucoup d'eau à Venise, pardon. On fait un point sur ce que vous avez dit.
C'est vrai, quand mes petits-enfants vont dire, on irait bien avec vous à Venise, tout de suite, j'imaginais la peur d'être avec eux. Finalement, ils sont venus assez grands pour que je n'ai pas trop peur. Mais c'est vrai que New York, ça fait partie des choses. Alors là, je crois que ce sera même un peu le sujet de mon prochain bouquin. Il y a des choses comme ça, avec un peu d'âge qui vient, dont je me dis que j'ai envie de ne pas les faire. Et ça a l'air en plus forte de ne pas les faire.
La théorie du fantasme, qui doit rester un fantasme, parce que le réaliser serait tuer le fantasme, mais pas du tout.
Mais si. J'ai pas envie d'avoir mal aux pieds dans New York, parce que j'ai trop fantasmé sur, sur les images de Woody Allen.
C'est Guillermo, pareil, pour le travail. Ça reste un fantasme, mais il veut pas y aller.
Pourquoi vous, vous dénigrez avant d'avoir...
Je dénigre pas, simplement...
Quel est le fantasme? Quel est le fantasme de New York?
Le fantasme de New York, c'est bon...
C'est la musique?
Je parlais des films de Woody Allen, ça en fait partie, mais c'est même avant, tous les films noirs et blancs, des polars, enfin une atmosphère comme ça, qui me parle énormément, et en même temps...
Pardon, la musique, Simon Garfunkel, que l'on retrouve également dans votre livre,
c'est vrai, sur les pochettes de disques notamment, on retrouve souvent comme ça Central Park, c'est vraiment dans les films, les pochettes de disques...
C'est culte.
C'est très très culte. Et justement, j'ai envie que ça reste culte, et puis j'ai envie comme ça, pour un certain nombre d'endroits, que j'aime beaucoup a priori, l'Irlande, l'Écosse, tout le monde me dit oh, c'est pour toi, etc. Et je me dis que maintenant, j'ai pas le temps de m'y faire des habitudes suffisamment ancrées pour que ça puisse me satisfaire, et donc je préfère que ça reste des fantasmes.
Revenons sur Venise, qui est quand même aussi la ville de tous les rêves, et de beaucoup d'imaginaires, y compris avec son carnaval. Pourquoi là, vous avez franchi le pas?
Je l'ai franchi un petit peu par hasard, parce que c'était un voyage qu'on nous avait offert quand on avait 50 ans, Martin et moi. Et en fait, moi, j'y allais avec plein d'a priori, la lune de miel, enfin, tout le truc sirupeux sur Venise, le côté un peu factice, la verroterie, etc. Le carnaval, tout ça, ça me branchait pas du tout. Et puis, en fait, j'ai découvert le contraire de ça, c'est-à-dire une ville où on peut être absolument seul dès qu'on en a envie, pour peu qu'on on suive pas les trajets Peri-Alto-San Marco. Et puis, une espèce de qualité comme ça, de silence, une ville où il n'y a pas d'automobile et qui est aussi belle. Moi, j'ai l'impression que là, le temps passe vraiment pas et j'y reviens dès que je peux.
Alors justement, tiens, revenons en ville. Quelle communauté des villes énerve particulièrement Philippe Delerme?
Les vélos.
Exactement. Enfin, les vélos, les cyclistes, arrogants, vous dites, ils sont arrogants.
Ouais, pas tous les cyclistes. Hein, quand le vélo a commencé à s'installer dans Paris, je trouvais que c'était hyper sympa. Je voyais les gens à un grand sourire aux lèvres parce qu'on faisait du vélo dans Paris. Et puis petit à petit, il y a eu aussi une espèce de violence du cycliste que je trouve assez sournoise.
Ça, c'est un titre. La violence du cycliste. C'est-à-dire qu'on imagine
mais surtout,
pas...
plus que la violence, ce que je n'aime pas trop chez certains cyclistes,
l'arrogance.
C'est le fait qu'on a l'impression qu'ils ont un t-shirt sur lequel il y a marqué j'ai raison. Quoi. Quelle que soit la situation. J'ai raison parce que je suis à bicyclette. Et ça, c'est une chose qui m'agace pas mal.
Parce que vous ne déplacez pas à vélo, donc?
Je me déplace à vélo à Beaumont-le-Roger. C'est un peu différent.
Tom Villa, aussi, tu...
Je me suis pris la tête avec un cycliste la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il me dit, attention, on m'avait frôlé. Et il avait une nouvelle piste cyclable, genre une 4 voies, et il n'y allait pas. Donc oui, excuse-moi.
C'est un peu accroché. Moi, quelquefois, je les pousse.
non, quand même.
Il y a des 4 voies cyclables.
Mais tu sais, boulevard Richard Lenoir et tout, qui remonte à côté du canal Saint-Martin.
Attention, nous faisons du parisianisme.
Mais ils ont des belles pistes cyclables et ils ne les utilisent pas forcément.
Ils devraient en profiter.
Bousculez-les.
Alors, l'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, c'est le selfie qui a été le premier geste qui vous inspirait le livre?
C'est le smartphone, mais c'est pas le... Il y a 3 textes consacrés au smartphone parce que c'est quand même le doudou universel pour tout le monde aujourd'hui.
Vous avez raison d'employer le terme doudou parce que les psys comparent en effet le smartphone au doudou, c'est-à-dire que c'est le
tu dors avec,
le lien. Non, mais c'est le
il est toujours sale.
C'est le lien qui nous rassure, y compris de l'ouvrir alors qu'il n'a pas vibré, qu'il n'a pas sonné pour voir si quelqu'un pense à nous ou si quelqu'un nous envoie un message.
Oui. C'est un créateur de paix et d'inquiétude en même temps, comme tous les créateurs de paix, en fait. Ça suscite l'inquiétude, parce que s'il n'y a rien qui se passe, aussitôt, on devient inquiet. Mais en fait, le premier geste sur lequel j'ai écrit, c'est le premier geste du recueil, d'ailleurs, c'est cette espèce d'effleurement comme ça de la surface du selfie pour faire surgir des photos.
Je dis que la surface est glacée, elle est froide,
c'est une espèce de patinoire, comme ça. Et je trouve que c'est un rapport à la mémoire qui est un peu nouveau. Et ça m'intéresse, parce que justement, c'est pas une petite Madeleine tout à fait proustienne, c'est autre chose, puisqu'en fait, on fait surgir les gens, les moments qu'on a vécu, qu'on a aimé, mais en fait, on les effleure, et puis c'est comme si on les effaçait en même temps qu'on les fait surgir. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de complexe et qui est assez élégant en même temps, qui est assez beau.
Mais il y a surtout la possibilité que nous n'avions pas avant, et qu'on n'imaginait pas pouvoir avoir, c'est-à-dire toute sa vie peut défiler dans un smartphone. Voyons le bon côté aussi des choses.
Non, je voyais le bon côté.
Vous dites on les efface. On les effleure, on les efface.
Ah, un peu. Ouais. On les fait se succéder, disons.
Mais oui, mais comme on peut tourner les pages d'un album de photos aussi.
C'est vrai, mais quand même, la succession est plus... plus bestiale, plus rapide.
Vous la maîtrisez, la succession. C'est vous qui décidez le rythme.
Non, parce que vous faites une switch une fois toutes les 3 minutes. Je voudrais vous voir faire ça.
Vous pouvez. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut s'arrêter.
Très rapide.
On peut s'arrêter sur des photos. Vous parliez d'extase quand on est parent. Et que d'un coup, en discutant comme ça avec ses enfants, on se dit non mais quand t'étais petit, t'étais comme ci, t'étais comme ça, tu es né avec beaucoup de cheveux ou t'es né avec une dent ou t'es né ceci. Et vous prenez votre téléphone et vous repartez sur les photos, les premières photos à la maternité. Là, il peut y avoir cette espèce d'extase où d'abord l'enfant se revoit immédiatement et parce qu'il ne demande pas toujours à feuilleter l'album de famille et on peut s'arrêter. Donc je suis d'accord avec vous sur le côté néfaste par moment des téléphones, des réseaux sociaux et de tout ce que l'on peut imaginer, des selfies ridicules où on peut aller dans la plus belle ville du monde, comme vous dites, Venise, et la première chose que l'on ait envie de faire, c'est se prendre en photo soi-même et de passer à côté peut-être de très belles choses, comme dans des concerts de musique où maintenant on a l'impression où les feux d'artifice, ça sert à rien de prendre des photos de feux d'artifice, elles sont toujours pourries. Mais on en oublie de vivre l'instant présent pour penser d'abord
pour le capturer.
À le capturer.
Mais après, c'est vrai que c'est une...
Je crois que c'est une question d'éducation, enfin d'éducation.
De génération,
oui, mais de savoir comment maîtriser cet outil.
Non, mais il y a une différence. C'est qu'aujourd'hui, avec le smartphone, on peut faire autant de photos qu'on veut. À l'époque, les pellicules, t'avais, je sais pas, 24
et 36.
Poses. Voilà. Donc, tu t'appliquais. Maintenant, le nombre de photos mal faites qu'on a dans nos téléphones, qui sont floues, qui sont mal cadrées, et qui n'ont pas d'importance.
Mais en fait, dans l'effleurement, c'est vrai que moi, je voyais un côté esthétique aussi. Et de même que j'ai écrit un autre texte aussi sur le fait de parler en posant le smartphone sur la paume de la main comme ça, en le tenant presque comme un livre de messe
et en partager à tout le monde la discussion en plus.
Oui, alors c'est, en même temps c'est pas dans les endroits trop bousculés, c'est pas assis dans le métro, c'est sur un trottoir où il y a une espèce de célébration qui est assez élégante souvent comme ça, puis en même temps on regarde l'autre mais on se regarde soi-même aussi un peu pour le coup. C'est pas tout à fait un selfie mais c'est un petit peu voisin quand même, enfin une célébration de soi-même quand même quelque
tout
part.
Tout est très tactile, enfin il y a beaucoup de gestes qui évidemment qui dit geste sous-entend tactile, notamment caresser un livre, aussi passer la main.
Ouais.
Il y a l'odeur aussi du livre sur lequel vous arrêtez moins, voire pas du tout là, mais le toucher est important.
C'est vrai que c'est, je vois les affaires de gestes, mais c'est vrai que quand on vous offre un livre, on a toujours cette tendance comme ça à caresser la quatrième de couverture, et on sent qu'il y a un rapport. On parle un petit peu, on a un échange social qui est souvent assez récurrent. On parle, bah oui, j'aime beaucoup cet auteur, là, j'ai aimé ce bouquin, j'ai pas lu l'autre, j'ai moins aimé celui-ci ou tel autre, mais en même temps. Il y a un aparté, déjà, on se met en retrait, c'est déjà le livre en fait qui vous possède, on souhaite que le livre vous possède, et dans la caresse qu'on fait comme ça au dos du livre, c'est déjà ce sentiment de possession, puis on n'est plus tout à fait dans le salon, dans l'endroit social.
On souhaite que les gens partent, même. Enfin, moi, personnellement, quand on m'offre un livre et que j'en ai très envie, j'ai très envie que les gens partent, pour que je puisse commencer ma lecture.
Recevoir,
pour que je puisse commencer ma lecture, en vrai.
Merci beaucoup si vous pouviez vous parler.
Fin de la soirée, hein, parce que...
Si vous voulez un prétexte pour quitter Leïla, il y a toujours un livre dans la poche, mais tiens, j'ai pensé à toi.
Parce que la conversation, elle est somme toute assez banale, et alors soit on a une conversation sur autre chose, et c'est super, mais tout d'un coup, quand on fait l'article d'un bouquin, on se dit, ah ouais, c'est super, mais j'ai hâte, soit d'être dans mon lit ce soir, soit que les gens partent très vite.
C'est vrai que vous avez raison, je trouve que ce qu'on en dit est toujours un peu dérisoire par rapport à ce qu'on espère d'un livre.
C'est vrai, et c'est toujours, même à la limite, je préfère pas entendre ce qu'on va me raconter d'un livre, parce qu'on peut me passer même l'envie de le lire. C'est un peu de base.
Daniel Morin, il y a des gestes.
Oui, il y a
des gestes qui ont trouvé écho dans
ta vie. J'ai adoré le port du verre. Le port du verre de vin qu'on ne boit pas.
Le verre de vin qu'on ne boit pas. À deux doigts. Qu'on porte à deux doigts.
Ouais. La main épouse la forme et on se balade comme ça, on regarde le verre et on ne le boit pas. J'ai trouvé ça très joli. Alors, par contre, si je peux enchaîner.
Si je peux le boire.
Non, je ne le bois pas tout de suite même. Tu vois, j'obéis. Et je ne comprends pas. Votre hostilité à ceux qui vous cèdent le passage.
Ah oui, ça, c'est parce que je pense qu'il y a des politesses qui sont ostentatoires, faites pour éventuellement susciter le fait justement de pas la saluer, cette politesse. C'est des gens qui sont polis pour qu'on ne le soit pas avec eux, en fait. Parfois, enfin, je sens cette espèce.
Vous allez très loin, quand même, quand on regarde les gens.
Cette espèce de tension.
Ah, il est poli, donc il me déteste.
Ça fait parano.
J'ai pas exactement la formule en tête, pardon, mais c'est vrai que l'idée de dire, lorsque on peut clairement passer à deux dans dans un couloir ou sur un trottoir et que quelqu'un fait comme s'il se mettait de profil et s'arrête pour te laisser passer, tu lui dois une reconnaissance éternelle, un merci, alors que tu n'as rien demandé et qu'il cherche à sourire.
Je fais partie de ceux qui disent un merci du bout des lèvres dans ces cas-là. Je vois le mal partout, en fait.
Mais, oui, c'est
mais,
ça.
Mais non,
c'est
vrai que vous force la main.
Oui, je trouve ça un peu agaçant, notamment quand il y a carrément la place et que la personne s'efface comme ça. Et puis, forcément, on imagine bien que si on lui dit
c'est
rien.
Parce qu'elle vous voit plus gros que ce que vous êtes en réalité.
Bah, Tom Villa aimerait bien que les vélos aient cette politesse. Voilà. Voilà.
Mais il y a tout ce cirque social et parmi les gestes un peu décrits, celui qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'orgasme en public.
C'est souvenir.
C'est cette capacité. Non, mais on a tous assisté à des scènes comme ça, très gênantes.
À rire en compte Sally.
Mais je trouve ça oui. Vraiment, ça, c'est une chose que j'ai repéré, c'est qu'il y a une espèce de posture carrément sexuelle comme ça, de jeunes femmes qui, dès qu'on évoque une mousse au chocolat.
Mais
une vraie de vraie, et aussitôt il y a une façon de se cambrer comme ça, je me damnerais pour ça, et les filles qui font ça sont toujours extrêmement minces, souvent jolies, et après, quand vous retrouvez au restaurant avec elles, vous vous rendez compte qu'elles mangent absolument rien, et alors là c'est quand même très très dur, parce que elles sont les plus fortes en gourmandise, alors qu'elles sont quasiment anorexiques, et là on est complètement démunis, quoi.
Le résumé, en fait, c'est que chaque fois, il y a pratiquement une page recto verso par geste, justement, qui nous disent...
Une sorte de photo.
Chaque fois, on se dit...
Des daguerréotypes.
C'est vrai, et après, on se projette exactement à votre place, en se disant, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'on aurait agi de la même manière ou pas de la même manière, que l'on vapote ou pas, d'ailleurs. On fait aussi un transfert en se disant, est-ce que c'est...
Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une journaliste qui me parlait du geste d'ouvrir un disque, une pochette de 33 tours, comme ça, sur le lit, et elle me dit, ah, puis vous avez raison, hein, en repliant les pieds sur le lit. En fait, moi, j'ai pas écrit ça du tout, mais elle s'y voyait de cette façon-là, donc c'est un peu ce que
vous
disiez.
Et vous le dites notamment à propos de Simon Garfunkel. Qui passera.
On imagine.
Ils sont restés à Central Park.
Yeah. We'd like to know a little bit about you for my fire. We'd like to help you learn to help yourself. On a pris Simon Garfunkel parce que c'est justement la pochette que vous évoquez lorsqu'ils ont le dos posé sur le grillage Central Park avec ce...
Vous la voyez, je pense, la pochette.
Absolument. Ouais. Et ça donne envie justement de réécouter l'album. L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, publié au Seuil, signé Philippe Delerme. Voici maintenant Tom Villa qui va et poser les questions et donner les réponses.
Philippe Delerme, bienvenue dans la bande originale. C'est vrai que quand vous sortez un nouveau livre, c'est forcément un événement.
On peut peut-être se tutoyer.
Ah bah oui, bah, écoutez, avec plaisir. Oui, en plus c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, non, c'est vrai que c'est une bonne idée de se tutoyer. D'ailleurs, je me disais, ça serait peut-être sympa qu'on aille boire un coup après l'émission et que tu me racontes un peu tes projets.
On peut continuer à se vouvoyer.
Ok, alors, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas de souci. Philippe Delerme, vous sortez un nouveau livre, c'est un événement. Vous avez inventé un nouveau genre littéraire en parlant des petits riens de la vie qui font le bonheur. Vous, êtes heureux en ce moment?
Le bonheur, c'est un truc de minable.
Bon, non, c'est pas un truc de minable, le bonheur, non. On voit bien, tout le monde est à la recherche du bonheur. Peut-être que vous pouvez vous excuser, peut-être, non?
Oui, je dis ça, je dis rien.
Ah non, il n'y a pas de « je dis ça, je dis rien », non, vous l'avez dit, Philippe, hein, donc... Non, il n'y a pas de...
Bien sûr, j'ai dit la vérité.
Attendez, je comprends plus rien, vous allez vous mettre des gens à dos, parce que... Attendez, qu'est-ce que vous avez à...
J'ai un tempérament qui n'est pas franchement belliqueux ni agressif.
Non, mais pourquoi vous dites ça? Il y a un mais, je sens, vous voulez dire quoi, Nagui, exactement?
Il est complètement stupide, ton copain.
Non, mais ça va pas ou quoi? À la base, vous me proposez qu'on se tutoie, je dis, ok, cool, on va aller boire des mojitos.
Bah, le mojito, c'est tout un spectacle en soi.
Oui, mais c'est pas la question, Philippe.
Vous en prenez beaucoup.
Oui, mais c'est pas la question, Philippe. Je sens que l'interview est un petit peu laborieuse, je me trompe?
C'est ennuyeux comme l'autoroute, c'est toujours pareil.
Écoutez, si vous trouvez mes questions ennuyeuses. Attention, pas dans les insultes. Hein. Les auditeurs d'Inter vont être choqués. Un Philippe Delerme vulgaire, il va y avoir des AVC. Donc à ce moment-là, dites-moi, quelle question vous rêvez que je vous pose?
Est-ce que vous connaissez la comtesse Tartache-Molle?
C'est ça la question de vos rêves? Non, je connaissais la comtesse de Ségur, la comtesse de Tartache-Molle. Vous l'avez lu, vous?
Je suis jamais allé au bout. Hein, donc.
Mais ça n'a pas de sens, vous demandez des trucs dont vous n'êtes même pas allé au bout, c'est bizarre.
Je me suis permis d'ajouter un petit chiffon pour vos lunettes.
Mais c'est quoi le rapport? J'ai pas de lunettes, pourquoi vous dites
ça? C'est sûrement la seule phrase à laquelle je tiens vraiment dans tout ce que j'ai écrit.
Ouais, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous voulez dire un dernier mot pour conclure?
On peut peut-être se tutoyer.
Oh non, mais c'est pas possible! Allez, oui!
Youpi youpla.
Allez, formidable, bonne émission.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Youpi youpla.
Il y a tout à l'heure je disais qu'il y avait une page recto verso par geste de la vie, et peut-être l'une des pages, il y en a quelques-unes sur lesquelles vous allongez, vous étalez un tout petit peu plus, c'est le supermarché, c'est la surconsommation, ou c'est la manière dont on vit le caddie. C'est pas d'ailleurs la surconsommation, c'est le petit reproche que je voudrais vous faire. Vous parlez du supermarché et du caddie, et des roues du caddie qui ne tournent pas quand on veut passer d'un rayon à un autre. Ce qui me choque beaucoup plus, moi, dans les supermarchés, c'est la taille du caddie. Ouais, avec ce sentiment, quand on a acheté ce que l'on a dans la liste, alors vous avez raison, on en rajoute, parce qu'il y a des promotions, parce qu'il y a c'est chèvre et rosé, que vous rajoutez, dans votre...
Il y a des gens qui n'en rajoutent pas, hein, on voit des gens qui se tiennent à la liste, vraiment, de façon assez rapide. C'est
vous parlez de l'arrogance du cycliste dans Paris, il y a aussi l'arrogance de celui qui a le caddie extrêmement rempli qui déborde à côté de vous qui avez le caddie avec 5-6 objets parce qu'il a une espèce de puissance commerciale. Je suis riche, mon caddie est plein et toi tu ne l'es pas.
Si ça se trouve, il a 4 packs d'eau dessous et c'est une montagne de rien en fait.
Il y a une chose qui est rigolote aussi, c'est quand on se retrouve à la caisse, c'est vraiment la curiosité des gens à l'égard de votre caddie, de ce que vous avez dans votre caddie, qui n'ont pas forcément pour les humains en général, mais pour le caddie, il y a une espèce...
Une passion.
Mais c'est intéressant, parce que ça révèle. C'est intéressant de savoir ce que les gens mangent.
Bah oui, dis-moi ce que t'achètes,
en quelle quantité, s'il y a des enfants, pas des enfants, on peut imaginer toute la vie des gens dans les supermarchés.
Le caddie, c'est une espèce de ventre supplémentaire, mais et il faut reconnaître qu'il est fait pour le longitudinal. Quoi. Ouais. Il est fait pour faire tomber des choses directement, comme ça. Mais après,
comme les chariots, comme les chariots d'aéroport, il y a plein de.
Mais comme je ne prends pas l'avion.
Est-ce que vous l'avez repris depuis que vous étiez parti à Pékin faire les JO ?
C'est la seule fois.
D'accord.
Ouais.
Et vous l'avez mal vécu ?
Ah non. Non, je ne me suis même pas rendu compte, en fait, parce que j'allais faire un truc tellement génial que je m'en suis.
Et Venise, vous y allez en voiture ou en train ?
En train.
D'accord. Ouais.
L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent Philippe Delerme et dans la bande originale Guillermo Guise aussi.
Ça va les amis gosses?
Oui.
Hier matin j'étais au soleil, j'écoutais un podcast sur l'hépatite C. Ça te met une patate pour démarrer la journée. Pour moi il y a l'hépatite C et le reggae. Là je me suis dit Ernesto, fils d'un randonneur et d'une tante quechua, est-ce que tu me raconterais pas plutôt à tes camarades ce que tu as lu dans Marianne cette semaine? Parce que oui je lis Marianne. Si vous le répétez à Laurence Bloch, je n'irai. Je dirais que j'étais sous cortisone, ou pire, que j'avais bu à la gourde de Leïla, et que sous kétamine, forcément, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, pourquoi je lis Marianne? Vous savez qu'il y a un petit moment que mon père est mort dans une sorte d'essai, un truc con avec arrêt des fonctions vitales et tout. Et depuis, je trouve que lui et moi, on parle quand même vachement moins qu'avant. Je dis pas que c'est de sa faute, on a tous les deux nos torts. En attendant, sur la fin de sa vie, il était très ronchon quand même sur les transformations de la société. En mode, oui, tu verras que bientôt, on pourra plus fumer dans les maternités, et ce sera bien le pompon. Et c'est pour ça que je lis Marianne quand je lis Marianne. J'ai un peu l'impression de reparler avec mon père en fait. Et c'est dur de vieillir sans nostalgie. Vous avez vu la dernière interview de Michel Sardou? Ce siècle, le pauvre il est au bout du scotch. À côté Eric Zemmour, c'est Jean-Pierre Pernaut quoi. Tu sais, Sardou, tu sens que si Elon Musk crée un vaisseau pour retourner en 60 du vite, il serait là. Prenez-moi, je ferai ce que vous voulez, j'épluche les oignons, je change les housses de couette, me laissez pas ici, il y a des gens, ils sont non-binaires, je comprends plus rien, c'est quoi cette... Et je comprends qu'on soit heurté par l'érosion du monde dans lequel on a vécu. Moi, par exemple, j'ai jamais digéré que Julie Lescaut soit passée au format 52 minutes. N'importe quoi. J'ai toujours dit, si c'est pour faire ça, alors faites des capsules YouTube, alors avec Julie Lescaut, faites des snaps, mettez Véronique Jeunesse sur Chatroulette et ce sera bien.
Oh, sympa, non.
Mais donc, dans le Marianne de la semaine, il y avait un dossier un peu ronchon comme ça sur les insultes homophobes dans les stades, et sur le coup il y avait écrit pourquoi ils veulent rééduquer les supporters, les automobilistes, les dragueurs, les fumeurs, les beaufs, les chasseurs, les mal élevés, les mangeurs de viande et les amateurs de vin. Et je l'ai acheté parce que je me suis reconnu dans au moins 3 de ces catégories. J'en ai parlé à Daniel, il m'a dit que 3. Je dis oui, en effet toi t'es sur un grand chelem là évidemment, tu vois. Et sur une double page il y avait le magazine regrettait, je cite, ces petits plaisirs pointés du doigt par les brigades des bonnes mœurs. Genre, par exemple, la cigarette, la viande, la chasse, la bagnole, la fourrure. Je dis, putain, même la fourrure.
Non.
C'est chaud, quand putain, la fourrure, même Nagui a arrêté, quoi. Tu prends le c'était votre grosse résolution de la rentrée. Et c'est vrai que ça fait 2 semaines que vous y tenez. Et je dis, reste pas. Parce que l'année passée, quand il est arrivé avec son vison, je dis, putain, et il est vivant, en plus. C'était votre fierté. Et donc, j'aime bien lire Marianne, parce que ça me rappelle à quel point je suis progressiste. Vraiment, je suis ouvert aux évolutions de la société, et tant que ça me concerne pas, quoi. Parce que quand Marianne parle d'alcool, par exemple, c'est vrai, en même temps, c'est vrai qu'ils ont pas tort sur tout. Hein. C'est vrai. Est-ce que c'est pas parce que t'as bu 7 verres de vin que tu peux pas conduire une ambulance, quoi. Il y a un truc. Mais c'est vrai que pareil, quand je dis qu'au stade, on pourra plus dire arbitre, rentre ton cul. Là, je suis là, attends, c'est vrai, il faut pas passer à côté du côté poétique. Tout d'un coup, il y a une petite résistance. Comme ça. J'entends la voix de Michel Sardou qui me dit viens avec moi en vent 78. Je suis là, Michel. La semaine dernière, vous vous rappelez quand vous m'avez emmené dans votre guet-apens fatigué là, à Clairefontaine, oui. Quand on est arrivé, Tom Villa, il m'a filmé devant vos deux étoiles en mousse là, et votre coupe en papier crépon là. Il m'a dit ah, Guillermo, tes impressions. Et je lui ai dit bah, va bien te faire enculer. Et voilà, j'aurais pu répondre genre, je te souhaite de bien tomber dans les orties. Mais c'est pas ce qui m'est venu naturellement. Hein, je vous le dis franchement. Et pourtant, j'ai un badge France Inter. Donc il va y avoir du boulot, les amis, et pas que dans les stades. Allez, bonne émission.
Merci, Guillermo.
France Inter. Merci. La bande originale.
Et j'ai la preuve.
T'as la preuve de quoi?
De ce qu'il dit.
Non, mais tout orties, est vrai.
Je peux orties. Le faire tomber quand je veux.
Le problème, c'est que tout est vrai dans ce que raconte. C'est ça le problème.
Même la vision.
Non, pas complètement. Non.
Alors, ouais.
Et moi, la gourde, la kétamine et tout, non.
Parce que moi, le vision, je dis rien.
Mais non, mais.
Et vivant.
Bon. On peut faire un quart d'heure d'analyse des vannes, c'est particulier. Philippe Delarme, l'extase du selfie et ses gestes qui nous disent, il y a justement des choses dans l'actualité qui viennent régulièrement potentiellement alimenter certaines de vos réflexions sur des lois, sur la forêt amazonienne qui brûle. Vous avez forcément une opinion sur l'écologie, sur le manger de la viande ou pas, le vegan ou pas, le football, le sport. Vous êtes un passionné du sport aussi. Toutes les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Est-ce que ça serait pas plutôt une espèce de chronique quotidienne que vous aimeriez tenir dans un journal ou à la radio?
Là, je vais être là. Du coup, je vais devenir horriblement prétentieux. C'est un genre que j'ai mis un temps fou à imposer, en fait. Oui. J'ai mis quand même 25 ans avant d'imposer. 10 ans d'envoi par la poste, pas publié du tout. Après 15 ans de publication, on flirte un peu avec le roman parce qu'il faut passer par le roman pour exister en littérature. Mais moi, je voulais exister en littérature par ce type de texte et avec une.
Que vous qualifieriez comment? Vous appelez ça?
J'ai du mal à les qualifier. On les a appelés textes courts. C'est vrai que bon, ce sont des espèces de.
Et c'est trop long pour être dépensé.
Sur l'image. En même temps, il y a beaucoup de termes qui seraient juste pour le coup un petit peu arrogants ou prétentieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit un terme très juste, mais épouvantablement intello, c'est fractal parce que c'est comme un atome de neige et un atome, et en même temps ça veut quelque part à travers le minuscule trouver un petit peu tout l'être humain quelque part. Mais c'est vrai que ça pourrait être des chroniques. Je pense que d'abord le rythme me conviendrait pas trop parce que l'obligation de l'écrire comme ça, et puis moi j'écris très lentement en fait ces textes, et c'est assez curieux ce qui s'est passé avec moi parce que une fois que le succès est arrivé avec la première gorgée de bière, tout le monde a dit, c'est normal que ça marche, on le met n'importe où comme ça, on le prend n'importe où au milieu du bouquin, c'est ça parle de notre vie, etc. Et c'est pour ça que ça marche. Et moi je me suis dit, putain, 25 ans d'écriture, j'aurais pu trouver l'idée un petit peu plus vite. Et en fait, non, je pense qu'en fait, pour trouver vraiment l'autre comme ça, rencontrer l'autre, il fallait certainement qu'il y ait une espèce de passage initiatique et un peu dur pour moi de travail d'écriture proprement dit.
La musique est présente dans des citations et on sait qu'elle est présente également dans votre vie. Tout à l'heure, il y avait Simon et Garfunkel. Vous faites aussi référence à Gainsbourg, à sa gitane, qu'il fumait, et au vapotage, en disant que finalement, vous comprenez que les héros des westerns ou les gestes cultes mythiques du cinéma soient avec une cigarette et ne pourront jamais l'être avec une cigarette électronique.
Oui, c'est vrai que le vapotage, il se fait dans une espèce de retrait, de biberonnage comme ça, qui c'est pas lié à une espèce de honte de ceux qui le font, mais il se trouve que la gestuelle avec l'objet est un peu honteuse et n'a rien à voir avec l'élégance de Lorraine Bacall, avec ce geste très féminin comme ça, de répandre des volutes avec la main qui s'écarte, ou alors avec la virilité du gars qui avait toujours sa cigarette pendue au bec, et comme il y a une époque, et c'était à la fois la virilité et la féminité absolue de la cigarette, et c'était très mythologique. Voilà. Puis en plus, tout le monde fumait. Et c'est vrai que dans les émissions de télé, je parle d'une espèce de nuage atomique d'intelligence.
Polak, on voyait même plus les gens parler tellement il y avait de Polak
ou de Pivot. C'est vrai que c'était ça. C'était lié aussi à un type d'émission, aussi, à un type de présence des gens.
Non mais pardon, ça n'empêcherait pas aujourd'hui qu'il y ait ces émissions avec quelqu'un qui vapote, sauf que oui. vous le précisez dans votre livre, j'avais pas remarqué cette analyse, c'est ça qui est fort aussi, c'est-à-dire que dans les gestes que vous observez, que vous nous montrez, mettez de la loupe sur quelque chose, on se dit mais il a raison, j'avais pas remarqué. C'est que quand on vapote, on est plutôt recroquevillé sur soi, on se cache.
Je trouve que ça ressemble plus davantage aux gestes qu'on faisait quand on était adolescent, et qu'on cachait le fait que dans les couloirs du lycée, on planquait la cigarette comme ça sous le caban pour que ça se voit pas. Et je trouve que le vapotage ressemble plus à ce geste de l'adolescent qui cache sa sèche comme ça sous son manteau qu'à quelqu'un qui prend du plaisir à fumer. Quoi.
La musique, donc, dans la vie de Philippe Delerme, on va commencer par 1983, où vous écoutiez... Alain Souchon, c'est votre équivalent en chanson.
Waouh, gros compliment là. Non, parce que Alain Souchon, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué comme écrivain, puisque j'étudiais un texte de chanson par semaine avec toutes mes classes. Et Souchon, c'est vraiment celui qui résiste le mieux à l'explication de texte. Il y a une autre chanteuse dans un autre registre, qui est Anne Sylvestre, qui résistait très bien aussi. Mais Souchon, c'est une écriture tellement contractée, avec toujours des tas de choses à en dire. Et c'est vrai que, moi, j'en revenais pas de la façon dont on pouvait passer une heure complète à parler du style, simplement, de Souchon, de son langage, de la façon dont il a modernisé le langage des chansons. Alors, il dit, bien sûr, que il y avait bien d'autres avant lui qui ont tout inventé, comme Trenet ou Gainsbourg. Mais moi, lui, je trouve qu'il a vraiment inventé aussi quelque chose de tout à fait différent.
Comment vous le qualifiez, justement, son style ?
D'abord, c'est un style qui est très très moderne, avec une façon notamment de faire des néologismes, d'inventer des mots. Et puis, les rapprochements des mots sont jamais gratuits. Et dès qu'on fait réfléchir un enfant, je sais pas si vous parlez par exemple de la chanson Rameur Ramé, à l'époque, elle passait beaucoup sur les ondes et on entendait baignoire, tu m'as menti. Et si un adolescent écoute ça à la radio, il va pas forcément avoir conscience de ce que ça veut dire. Mais si vous le faites réfléchir à ça, il va comprendre ce que ça veut dire, baignoire, tu m'as menti. Et c'est un peu mystérieux quand même. C'est beau ce mystère et ça veut dire toujours plein de choses.
Et c'est joli hein, quand vous parlez de Souchon, c'est vrai qu'il a une telle économie de mots, ça me fait penser aussi à votre style.
Il y a un nouvel album qui sort, qui s'appelle I'm 50s.
Et il dit pas un mot.
Presque.
Vous allez voir également.
Et c'est tellement bien écrit.
On est en 83, Philippe Delerme. Et votre premier roman, enfin votre texte, La cinquième saison, va être édité. Mais avant d'être édité aux éditions du Rocher, il est passé entre les mains d'un grand auteur, c'est Le Clésio.
Ah oui. Ça, c'était quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que à l'époque, je n'avais pas la télévision et ma mère avait vu Apostrophe avec Le Clésio. Elle m'avait dit, mais il a dit qu'il aimait bien lire des manuscrits. Et alors, la fois suivante, quand j'ai envoyé un manuscrit, au lieu de l'envoyer de façon complètement anonyme, j'ai mis au bon soin de Jean-Marie Le Clésio. Et il se trouve qu'il, non seulement il l'a lu, mais il l'a beaucoup aimé. Il a failli réussir à le faire publier chez Gallimard. Mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait, ce qui a été pour moi une tristesse. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un comportement que je trouve assez chevaleresque, de prendre le temps de répondre et puis d'aimer un petit envoi comme ça de prof inconnu par la poste.
Et vous avez entretenu une correspondance ensuite ?
Non, avec Le Clésio, je l'ai rencontré dans la rue un jour et il est un peu intimidant comme ça, minéral. Je me souviens très bien, comme ça. Bon, ça s'est un peu arrêté là, donc.
Et la fierté.
Ah, vous êtes pote, quoi. Vous êtes. Ensemble, vous êtes hyper pote.
Non, mais la fierté des parents aussi. C'est un moteur, ça, que nos parents soient fiers de nous.
Ouais, je trouve, oui. Je trouve, pour moi, c'en était un. Et c'était un petit peu triste pour moi parce que la première gorgée de bière est sortie, mon père, avec son bel accent du midi, me disait souvent « Je ne comprends pas que tu ne sois pas encore passé chez Bernard Pivot. » Et je disais « Bon, papa, quand il m'invite, j'y vais. » Donc, j'ai fini par y aller, donc ça a été important en plus pour moi. Et
en fait, malheureusement...
Mon père était Alzheimer au moment où l'émission est passée. Donc oui, bien sûr. Et puis, mais que ma mère ait eu le temps de voir ce que je faisais, je faisais beaucoup les choses pour ma mère, oui.
1997, vous baignez dans cette musique.
J'habite au 6e, une chambre sans vue. À la semaine ou la rue, je laisse mes quatre murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour deux. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas bien nu.
Thomas Fersen avec ce parapluie pour deux. Vous aimez les chansons qui racontent comme celle de votre fils Vincent, qui raconte des mini-scénarii de notre vie où on se retrouve, où on se reconnaît.
Ouais, dans ce deuxième album de Faire Scène, c'était un album qui était très, je dirais, Douaneau, Booba, enfin photo noir et blanc, Paris aussi, qui était très parisien. Et là, pour le coup, avec une écriture, très très souvent, c'était des vers impairs aussi. Ça faisait beaucoup pour la légèreté. Enfin, je trouve que là aussi, c'était très écrit, j'aimais bien ça.
Et 97, c'est la publication de la première gorgée de bière. Initialement, c'est sorti à 2000 exemplaires. En gros, on se disait, voilà, si on en vend la moitié, c'est super.
Oui.
Et puis finalement, 1 million d'exemplaires plus tard, très rapidement.
Après là, ils se sont dit, si on en vend le double, ouais, ça serait vraiment
26 traductions, parce que on mesure pas aussi que c'est pas un texte qui s'est cantonné à l'hexagone.
Alors après, il y a des langues où ça passe bien, notamment il a été numéro 1 des ventes en Italie, en Espagne, mais pas du tout en Angleterre, par exemple. Enfin, on sent bien que l'anglais,
par exemple, bière, ils aiment pas.
Oui, puis je crois que même la langue se prête moins. Je pense qu'il y a une espèce de... je connais pas bien l'italien, mais quand je vois les livres en italien, je sens que c'est ça quand même.
Ouais, que ça peut coller. Puis bon, à Venise, de toute façon, vous êtes plus objectif avec l'Italie. Donc c'est forcément ce best-seller, ça doit être quelque chose d'assez fou à vivre dans la vie. Et pourtant, c'est une époque aussi qui est marquée par un événement dramatique qui contraste, qui fait se dire, j'ai attendu sans doute toute ma vie qu'un événement comme celui-ci se produise, ou je l'ai rêvé.
Et oui, c'est peut-être un peu symbolique aussi de quelque chose, puisque c'est vrai Martine, donc ma compagne, a perdu son frère de façon très tragique la même année. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, ce genre de choses. Ouais. Et puis même l'agression du succès, je crois que c'était une chose quand même assez compliquée. Moi, je rêvais juste d'avoir des livres qui soient convertis en livres de poche, en fait. C'est une ambition qu'ont souvent les écrivains. Parce que pour passer en poche, il faut quoi, vendre 8 ou 10 000 exemplaires.
Pardon, Philippe, vous êtes rendu compte que vous avez dit l'agression du succès en mettant ces deux mots, une sorte d'oxymore, alors que justement, le frère de Martine, votre épouse, a été victime d'une agression.
Ouais.
Donc, pardon, mais moi, ça m'a troublé d'entendre le mot agression. Quand j'ai entendu agression, je m'attendais à ce que vous parliez de votre beau-frère. Et d'un coup, c'est l'agression du succès.
Oui, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier, tous les gens qui viennent vers vous en disant c'est formidable, ça doit être extraordinaire et tout. Et en fait, on ne sait pas toujours pour les gens si c'est la vie est si formidable ou si extraordinaire que ça. Et voilà. Et même l'ampleur comme ça du succès, bien sûr, les gens ont du mal à croire quand je dis que moi j'aimais bien aussi attendre et être dans la mélancolie de l'attente, qu'il y a une façon d'être plus adolescent quand on attend, qu'on est plus soi-même aussi quand on en face d'un gros succès, puisque je l'ai vécu. Je pense qu'on réagit souvent de la même manière aux mêmes choses qui arrivent, alors que quand on est dans sa solitude, on se demande si les choses arriveront jamais un jour. Eh bien, on a, d'une certaine façon, on est plus soi-même, on est davantage soi-même. Mais ça, je continue à le penser.
C'est pas comme New York, le succès, c'est-à-dire qu'on le fantasme, mais on aime bien le vivre.
Ah, pas mal, bien joué. Un partout.
En 2010, vous écoutiez
2700 rue des Partances, j'ai revu mes tristesses d'avant, brisé mes bonheurs présents. Toujours les mêmes gestes, toujours le même enfant qui détruit tout de peur d'être géant.
Cette chanson de Pierre Lapointe vous renvoie quelle image, quel lieu?
C'est une chanson. Alors je trouve que la voix de Pierre Lapointe dans cette chanson, elle est déchirante. Elle est, je pense, en plus la voix de quelqu'un qui est pas toujours si bien que ça dans sa peau et qui a une voix déchirante quand il évoque le passé, l'enfance. Cette chanson, elle est, je pense, que même en l'écoutant un tout petit peu, elle est pas si connue que ça. Mais je pense qu'on se rend compte en 15 secondes qu'elle peut être absolument déchirante et parce que elle évoque quelque chose de tellement personnel, quoi.
Et 2010, je crois que c'est la date qui m'a le plus ému dans votre bio, Philippe Delerme. C'est l'année où vous donnez votre nom à la bibliothèque de Chaponval. Alors ça peut sembler, comme ça on se dit que l'écrivain voilà, rêve de quoi que ses livres soient publiés en poche. Je crois que donner son nom à une bibliothèque, c'est pas rien. D'autant que c'est là que vous avez appris à lire avec votre mère.
Oui, tout à fait. C'était co-préparatoire. C'était ma mère qui m'a appris à lire. C'est vrai que les instituteurs habitaient à l'école et c'était très très important pour moi d'habiter des écoles. J'ai habité des écoles donc toute mon enfance, toute mon adolescence, notamment cette école de Chaponval. J'ai des photos de moi avec une petite voiture comme ça, et il y avait cette espèce de possibilité princière qu'ont les enfants comme ça d'instituteurs d'être seuls dans la cour de l'école, qui est une façon comme ça de jouer, qui peut être aussi un peu solitaire, mais qui est magnifiquement poétique et qui donne envie aussi d'imaginer des choses de façon particulièrement intense, parce que c'est des lieux qui sont habités par l'enfance, par de la vie, et qui sont d'autant plus silencieux et magiques et poétiques quand il n'y a plus les enfants.
Et comment gérer ce moment qui doit être, comme l'a dit Leïla, un moment d'émotion, qui est un moment de reconnaissance aussi, et où on... et peut-être un moment d'éternité, parce que un nom de bibliothèque, bah si.
Si, mais c'est, en fait, là, pour le coup, c'était vrai que ma mère était encore vivante quand ça s'est passé, et donc c'est voilà. Et ça, c'était quelque chose de fort. Donc.
Et c'est bien payé?
Alors ça intéresse Daniel, parce que le premier bar où il a bu va porter son nom très bientôt, ainsi que le premier bouge de Guillermo Guise. On va parler de, évidemment, encore de ces petits gestes qui nous disent l'extase du selfie. Philippe Delerme, c'est aux éditions du Seuil. Avec vous, Pascal Lardellier, merci de venir à ce micro. Vous êtes professeur de sciences de la communication à l'Université de Bourgogne à Dijon, chercheur et auteur d'enquêtes sur le business de la communication non verbale. Est-ce qu'on doit se méfier justement
de Philippe Delerme
et de l'analyse des gestes?
Non, de lui on ne doit pas se méfier. Je pense que d'ailleurs dans cette émission ont été évoqués avec beaucoup de finesse la poésie et puis le mystère finalement du social. Donc c'est difficile de réembrayer sur de la théorie. Mais d'un autre côté, quand on lit Philippe Delerme, et je suis un grand lecteur de son œuvre, on s'aperçoit que finalement il y a une grande prévisibilité à tous ces gestes, hein. Et ce qu'il décrit d'abord, c'est ce caractère assez prévisible de s'effacer quand on croise quelqu'un, etc., etc., de mimer un orgasme quand on évoque la gourmandise. Bon, tout ça est très bien. Donc, il y a un caractère finalement assez théâtral. On joue des rôles socialement. Et puis, ce qu'il nous dit, c'est que parfois, il y a un entre-deux de maladresse. Il y a une espèce de suspension où finalement, les choses vont se figer, les choses vont se crisper. Et c'est là qu'on peut ou pas essayer de décoder. Alors, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la surinterprétation des gestes, parce que le savoir, c'est bien, mais la saveur du social, elle tient peut-être aussi dans ce mystère, me semble-t-il. Et si j'ai écrit livre...
C'est joli de rapprocher savoir et saveur aussi.
Ouais, c'est Roland Barthes, et d'ailleurs, il y a quelque chose de très très barthésien dans l'œuvre de Philippe Delerme, je le disais tout à l'heure.
C'est clair.
Le côté fragmentaire.
Tu confonds avec Fabien Barthez, le gardien d'équipe de France.
Non, je parlais de. Mais je pense que les auditeurs ont identifié Roland Barthes, qui n'est pas un Simpson.
Les auditeurs, eux, tu sais.
Non, je vais aller faire un tour.
Je suis à une table avec des connards, mais je pense que les auditeurs, eux, ont.
Non, c'est débile. Je vais boire un verre en moi.
Parlez pour vous.
Nagui, je n'avais pas dit eux. Voilà. Je sais à qui je m'adresse ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Non, mais.
Et du coup, vous m'avez fait perdre le fil.
Non, mais Pascal, ce que je voulais savoir, c'est que le langage corporel, vous dites, savoir et saveur, arrête, ça me fait du bien. J'avais un massage de Daniel Morin pendant qu'il s'en allait boire un coup au Morin, qui se trouve rue du Gros, c'est juste à côté, la rue Gros. Le langage corporel trahit ou traduit?
Alors déjà, c'est difficile de parler de langage corporel parce que ça renverrait à quoi? La lisibilité du corps. Et c'est vrai qu'il y a des espèces de gourous, ce que j'appelle des obsédés gestuels, qui tentent à nous vendre des bouquins et des formations et des conférences dans lesquelles ils expliquent que finalement les choses sont simples. Nous sommes lisibles comme des livres. Donc il suffit d'apprendre l'alphabet et la syntaxe et vous pouvez lire dans autrui à livre ouvert. Et bien évidemment, mon ouvrage, enfin celui que vous avez cité, c'est un travail qui s'oppose à tout ça. Puis c'est un travail d'humilité parce que je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette part de mystère qui habite aussi nos relations, et je crois que la beauté du social, c'est aussi ça. On peut en saisir des choses, mais on peut pas être dans la surinterprétation permanente, et l'idée de langage gestuel me pose problème, en tout cas ça nous pose question aux chercheurs qui travaillons avec des méthodologies éprouvées, et il y a tout un ensemble de traditions qui nous dit quoi? Que la gestualité, elle dépend de l'énonciation de ce qu'on est en train de dire. J'en veux pour preuve que des études ont prouvé que quand on entrave la mobilité gestuelle, ça entrave la mobilité mentale et verbale. De même, la gestualité dépend de votre interlocuteur. Donc vous regardez en permanence au truc, il vous donne des gages d'écoute. Mm-hmm. Et rien n'est plus déplaisant et déconcertant d'être devant quelqu'un qui prend son téléphone et se met à faire autre chose. Alors on dit, est-ce que tu m'écoutes, etc. Voilà. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que la gestualité, elle est produite par un contexte, elle est produite par...
Le ton de la voix aussi, j'imagine.
Le ton de la voix, oui, bien évidemment, la dimension paraverbale qui joue, hein, et les animaux s'y fient absolument. Hein. Vous dites, vous parlez à un animal qui va se référer à la manière dont vous lui parlez pour agir et interagir. Voilà. Mais je pense que de là à vendre des horoscopes relationnels qui nous disent quand quelqu'un croise les bras, ça veut dire ça, quand quelqu'un ouvre les bras, il est ouvert, je crois que c'est un non-sens. Hein, c'est un non-sens absolu. Alors je répète, c'est de l'horoscope relationnel. Et il faut cesser de donner à penser que le non-verbal est une espèce de langue vivante d'eux qui s'apprendrait et qui nous donnerait les clés d'autrui. Parce qu'on est dans une espèce de posture de toute puissance. D'ailleurs, ces bouquins parlent de quoi ? Ils parlent du management, ils parlent de la négociation, ils parlent de la drague. Donc c'est systématiquement des contextes où il y a quand même des enjeux relationnels parce que un malin, malin et demi. Si lors de mon premier rendez-vous Tinder ou Mythique, j'arrive à lire précisément, je mets des guillemets, ce que pense mon interlocutrice, bien évidemment, j'ai un coup d'avance, si je puis dire. Voilà.
Eh donc, ben, bravo.
Ça m'a échappé.
J'envisageais la partie d'échec. En
quand, quand les gens baillent, c'est pas bon signe, généralement.
Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Après, on peut bailler d'aise aussi. On peut bailler d'aise, on peut bailler de bien-être.
Non, et ne pas regarder son interlocuteur, ça peut être aussi de la gêne, ça peut être, c'est pas que de l'ennui ou...
C'est codé culturellement, encore c'est une ça. Fois. Il y a des cultures dans lesquelles il est de bon ton de regarder. D'autres dans lesquelles il faut plutôt détourner le regard comme signe de respect, de hiérarchie. Voilà, donc il n'y a
pas
de
langue. Fixer le regard peut être insultant en fonction de la situation.
Et c'est codé
cultures.
Socialement aussi. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le livre de Philippe Delerme, c'est que les gestes, même si on leur confère une certaine forme de mystère, ils sont quand même identifiables ou associables à une classe sociale. On n'a pas exactement la même gestuelle.
À l'éducation.
L'éducation dans certains contextes. Au-delà même de la catégorie sociale, je pense qu'on est capable de s'adapter tel un caméléon à l'environnement où on se trouve.
Tout à fait. Et c'est vrai que les gestes, ils sont codés par une éducation, une culture, une époque aussi, mais aussi par le contexte.
Exemple au théâtre, on se lève, que j'ai trouvé un très beau texte aussi. C'est combien de fois on se retrouve dans une salle de théâtre où on a envie de crier à la fin du spectacle notre amour, et on se rend compte en fait qu'on va se retrouver seul comme un idiot, et qu'on va donc s'empêcher, être dans une forme de d'empêchement permanent. Maintenant, parce que socialement, ça se fait un peu moins en théâtre, je vais dire public, qu'en théâtre privé.
À l'inverse, on parle des gestes qui en disent long sur nous, mais il y a aussi ceux, et peut-être que vous faites partie de ces coachs ou entraîneurs, je ne sais pas quel terme employer, qui vont donner des conseils pour les médias, justement, à dire voilà, utilisez tel ou tel geste, et là, ils deviennent acteurs et ils font des gestes pour nous faire croire à une sorte d'empathie ou à une attention particulière.
Déjà, une grande partie de tout cet art de la dialectique et de la rhétorique se trouve dans un ouvrage majeur qui est la rhétorique d'Aristote. Mm-hmm. Et je crois que quand on lit cet ouvrage millénaire, on comprend déjà pas mal de choses sur l'art oratoire, etc. etc. Et c'est vrai que quand on voit les politiques, hommes et femmes, qui prennent des coachs en gestualité, je pense que c'est un discrédit total de la parole politique. Parce que si on veut reconquérir par la gestualité dans un débat ce qu'on a perdu par la parole, c'est grave quand même.
Ça veut dire qu'on n'a rien à dire, le discours est creux.
Comment ?
Ça veut dire que le discours est creux.
Ça veut dire qu'on cherche des formules magiques. Ou
ça veut dire qu'ils ont peur d'être trahis par un geste qui viendrait déformer leurs propos, donc ils rajoutent une couche dans l'acteur qu'ils deviennent à ce moment-là, parce qu'il y a un petit côté comédien quand même.
Il y a des coachs politiques pour les voix, je crois.
Comment ?
Oui. Des coachs politiques,
bien sûr.
Voir,
oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une tendance un peu mainstream de lisibilité du corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut remettre vraiment en question parce que c'est une chose trappe relationnelle.
Quand
vous êtes devant quelqu'un, écoutez ce qu'il a à vous dire. Ça me semble important. Et puis après, il y a cette prévisibilité de l'interaction.
Pour trouver du travail, et ça peut peut-être intéresser, il y a plus de gens au chômage qui nous écoutent que de politiques. Quand on cherche un travail, quand on est en rendez-vous devant le DRH, là aussi, il y a des gestes, des postures dont on doit se méfier ou au contraire qu'il faut...
La première chose dont il faut se méfier, et je crois que c'est important, c'est le délit de sale geste, en fait. Hein. Je crois que quand on vient passer un entretien d'embauche, on a une expérience, on a un CV, on a travaillé un argumentaire, et je crois que ça serait quasiment justiciable de savoir que vous êtes rejeté parce que vous avez eu le malheur de croiser les jambes ou de vous gratter le cou. Donc je pense que j'ai pas de conseils à donner de ce côté-là. Je crois qu'il faut travailler son CV.
Mais je vois en tout cas que ma question ne vous a pas plu parce que vous avez croisé les bras à ce moment-là.
Vous êtes à ça de vous gratter le cou. Oh là là, la veste.
Et de sortir une opinelle.
Pascal Lardellier qui signe donc cette enquête sur le business de la communication non verbale chez EMS. C'était il y a 2 ans. Merci d'être venu à ce micro. Tanguy Passureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler mode. Vous ?
Oui, ça va. Oui. C'est vous qui me dites ça en plus.
Il est très bien
la mode, c'est mon truc, Nagui. Je connais tous les créateurs. Il y a Tex, la marque Carrefour, Tissaya de Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, pioche dans le stock pour ses slips. Il y a aussi H&M, Tommy Hilfiger et Calvin Klein qui ont un point commun. Ils font fabriquer en Éthiopie, le pays où il y a la main d'œuvre la moins chère du monde. Il y a un rapport, vous allez voir.
On en parle après les infos de midi. Oui. La bande originale avec Leïla Kadour-Boutadi, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa, Guillaume Mougui,
bonjour Nagui,
Tanguy Passio, et notre invité Philippe Delair.
Bravo Nagui.
L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent non, ces gestes qui nous trahissent ou nous révèlent, il y a la caresse de la quatrième de couverture. Et quand on caresse votre quatrième de couverture, la caresse du livre, il y a, et vous, quel geste vous trahit? Comme si on devait finalement se méfier de nos comportements aussi.
Ouais, moi, j'aurais pas eu l'idée de mettre ça. C'est le commercial qui a mis ça parce que bon
mais vous avez le droit. Vous avez le droit de refuser.
Oui, mais en fait, ça ne me dérangeait pas d'un point de vue commercial. Mais j'aurais pas aimé revendiquer moi cette sous-phrase pour ce que j'ai fait.
Donc il y a quand même une petite gêne. Vous dites oui si vous voulez, mais,
ouais,
mais
c'est un peu oui si vous voulez. Ouais.
C'est ça.
Mais la question, on se la pose. Je comprends le point de vue du commercial, c'est de susciter l'interaction avec le lecteur et de poursuivre la conversation après la lecture du livre et de se dire tiens et moi mon geste, ce serait quoi en fait ? Ce qui n'est pas facile à déterminer, vraiment.
Non,
parce qu'il faut toujours un regard extérieur, et c'est ça votre force, c'est d'observer les contemporains. Ça veut dire que vous êtes en quête de ces gestes à la terrasse d'un café, en vous promenant en ville avec un petit carnet, vous notez comment vous travaillez.
Mais non, en fait, c'est
a priori, photos,
on pense vraiment que je suis le type de l'écrivain à carnet qui note un super. Et non, pas du tout, c'est en fait, pour que ça se passe, il faut que je vive tout simplement et en fait l'idée elle me vient beaucoup plus tard et j'ai jamais de carnet sur moi, je suis pas du tout un écrivain à carnet, je suis quelqu'un qui beaucoup plus tard me rend compte que telle phrase, puisque j'ai souvent écrit à propos de petites phrases ou tel geste, ça me vient comme ah oui c'est une évidence, c'est un truc qui est assez excitant, qui est assez pointu et qui veut dire aussi quelque chose sur l'homme en général.
Et changez-vous justement d'explication ou d'analyse sur un geste que vous avez vu, je pense au vapotage, est-ce que dans un premier temps vous partez avec une idée et à y réfléchir ça en devient une autre idée?
Oui, c'est sûr de même que il y a souvent une chute dans ce que j'écris, que la chute je ne la possède pas en commençant le texte. En fait, la jubilation, elle vient de ça aussi, de se sentir vraiment contemporain, vivant dans un monde dans lequel on ne juge pas, on ne cherche pas des sujets, mais simplement on se contente de vivre. Et après, d'avoir la jubilation de l'écriture, et c'est de l'écriture elle-même que naît parfois une petite trouvaille ou une idée.
Le selfie, le vapotage, le verre de vin que l'on tient à deux mains, les caddies dans le supermarché, toutes les posture aussi, la manière dont on peut poser perpendiculairement, croiser ses jambes, enfin poser sa cheville sur son genou et tripoter ou trifouiller sa chaussette.
Quand on est un homme de pouvoir.
Oui, uniquement, évidemment.
Comment on plie les draps à deux ? La pavane ou la parade ?
Ça, c'est une danse.
Des draps pliés,
ça, c'est une danse
bon.
Avec sa maman, ça, quand on plie les draps. C'était...
Ouais, ou pas
avec sa maman.
Pas qu'avec sa maman. Mais c'est vrai.
C'est un truc de couple.
Plier les draps, un truc de couple.
Moi, avec sa femme de ménage. Enfin bon, bref, c'est un truc.
Alors, tu vois, j'en étais plus à la Madeleine.
Ah oui.
C'est maman qui m'a appris à faire ça.
Plier les madeleines, ça fait rien.
L'extase du selfie, c'est au seuil, c'est signé Philippe Delair. Voici Tanguy Passureau.
Tout ça.
Là, devant.
Ah, et bien habillé.
Et la même chemise que toi.
Hyper chic.
Tanguy, vous allez nous parler habillement ce midi.
Oui, parce que les fringues, c'est ce qui nous définit. C'est un message qu'on adresse au monde, d'où le fait que le monde vous comprenne assez peu, Nagui. Chacun a son style. Leïla, c'est le chic décontracté. Daniel Morin, le shorter country daltonien. Guillermo, le négligé réfléchi. T-shirt informe qui pend, mais sur un corps affûté. Ce qui donne l'impression de voir le seul type inscrit au RSA qui aurait trouvé 1000 euros pour s'inscrire au cercle de la forme. Philippe Delerme, c'est le look prof, hein, du velours, des cols roulés l'hiver, beaucoup de laine.
Moi,
la plupart des moutons, des moutons de l'espèce Schengen finissent sur lui. Hein, c'est le seul monsieur qui n'a pas besoin d'une épilation intégrale pour être tout doux. Tom Villa, lui, est sportswear mais BCBG, pas de casquette. Hein. Le téléspectateur de Vivement Dimanche, qu'il divertit, il hurle pour qu'il l'entende bien, ne le supporterait pas. Il crierait à sa femme Dambudiou Micheline une racaille et tirerait dans la télé avec sa carabine à plomb quelque part là-bas dans la Nièvre. Et moi, c'est la chemise défraîchie l'été, c'est-à-dire tout le temps, puisqu'avec le réchauffement, l'air est en permanence aussi chaud que le titre Le curé de Camaret qu'Élodie Frégé chanterait tout en léchant de la crème anglaise. Il fait tellement chaud que Patrick Bruel, le pauvre, a même renoncé à porter un slip. Il se balade, nu dans sa loge, son membre traînant dans la corbeille de bonbons Haribo offerte par la prod. Bref, les vêtements, c'est notre identité. Et le rôle qu'on occupe dans la société en découle. À un type qui porte un t-shirt Bob Marley and the Wailers, on sait qu'on peut demander du shit. À un type qui porte un t-shirt Kinvey, on sait qu'on peut demander à quel moment il a perdu le contrôle de sa vie. Regardez le burkini, c'est une fringue à message. Ça signifie je suis là, j'existe et j'y reste. Bon, le souci étant qu'après, ça fait comme les shorts de bain, dans l'eau, ça finit par gonfler. Hein, et on a l'impression de voir un gros banc d'oursin. C'est un coup à finir frit à la poêle, on est mieux nu. Hein, regardez Patrick Bourel. Autre fringue à message, la cagoule, qui peut signifier soit je vais commettre un braquage, soit je suis du Ku Klux Klan dans le duo Lil Nas Billy Ray Cyrus, je n'aime que Billy Ray Cyrus, soit l'hiver j'ai un look atroce. Les fois où moi je mets mon t-shirt Joy Division, ben je donne un message à l'auditeur de 50 ans d'inter qui est moi aussi je perds mes cheveux, moi aussi je suis triste, moi aussi je suis vieux. Alors que quand j'étais RTL, je pouvais pas me permettre d'être indie rock. Je mettais mon t-shirt avec écrit vas-y Benoît, tire sur mon doigt. Qu'est-ce qu'on a appris avec Pascal Pro? Mais le souci avec les t-shirts, c'est ce qu'on regarde ce qui est écrit dessus et jamais l'étiquette. Parce que le pays où ça a été fait, on s'en tape. Comme Patrick Bruel de son premier coup de soleil sur les testicules. Or, on devrait s'y intéresser. Parce que les gens qui les fabriquent sont des esclaves modernes. Derrière le sweatshirt charmante parisienne à 14 euros que tu portes, sombre pétasse qui m'écoute, un travailleur exploité pleure, aussi brisé que s'il avait gagné sur Rire et Chanson l'intégrale en CD des vamps. Tiens, exemple, le centre Stern à New York qui pond des études sur la mondialisation a fait un rapport sur l'Éthiopie, pays dont on sait peu de choses, sinon qu'il est loin d'une ville de nos banlieues et qu'il meurt peu à peu. Eh bien, figurez-vous que l'Éthiopie est le nouvel Eldorado du secteur textile. C'est comme le sentier en 88, sauf qu'il bosse le samedi. Et ceci, grâce à la main-d'œuvre la moins chère du monde. 23 euros par mois. Moins que ce que les bookmakers ont misé durant tout le trimestre dernier sur un retour de Benoît Hamon.
Et je croyais que c'était le Bangladesh qui était le pays le moins cher.
Mais pas du tout, Nagui. Mais suivez un peu si vous voulez faire de l'argent un jour. Enfin, je sais qu'on aime les losers magnifiques dans ce pays de branleurs, mais enfin, bougez-vous. Mais non, le Bangladesh, c'était avant. Mais là, ils sont à 85 euros par mois. Ils ont pris goût au luxe. Certains, un dimanche sur deux, s'offrent même du surimi, un bâtonnet pour 14 personnes. Mais ils se sont embourgeoisés, les mecs. Au Kenya, un travailleur prend 185 euros. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de payer à leur gosse l'entrée au zoo. Ils sont dans le zoo. Il y a des lions partout. Hein, parfois, vous allez au lit, vous dites à votre femme, dis donc, bébé, ta nouvelle coupe, ça fait un peu Bonnie Tyler, saut 84. Vous réalisez que c'est un lion. En Chine, un travailleur fait jusqu'à empocher 291 euros par mois. Ah bah le chinois est confort, hein. Et les grandes multinationales du textile, comment font-elles si elles veulent continuer à nous faire à nous les trois caleçons à 2,99 €, sauf à Patrick Bruel qui n'en a pas besoin. Elles sont obligées de délocaliser en Éthiopie. 23 euros par mois et par travailleur, hein, soit moins que ce que tonton David a touché en droit SACEM sur ses diffusions radio en 2019. Et puis ça bosse, le Workers' Rights Consortium, une organisation américaine voilà, qui surveille les conditions de travail, dit qu'en Éthiopie, si on vous surprend à boire de l'eau à votre poste de travail, votre paye est réduite. Et l'eau, c'est générique, hein, c'est pour désigner le liquide en général. Si vous décapsulez une bière qu'un mec en dessous de vous, un qui paye 12 euros par jour pour venir bosser, vous a apporté avec un plat de moule en hurlant, c'est toujours ça que Guillermo Guise n'aura pas, eh ben c'est pareil. Et c'est là toute l'horreur du libéralisme mondial, c'est qu'on là vont me faire devenir de gauche. Parce que si demain le Botswana invente le salaire à 4 euros par mois, toutes ces boîtes laissent tomber l'Éthiopie dans la minute. La planète, pour eux, c'est open bar. Alors, eux, c'est qui? Bah, alors, en Éthiopie, il y a H&M, hein, mais aussi Calvin Klein, et il figure que ceux qui aiment les calbutes avec le nom de la marque qui prend la moitié du calbut achètent. Et là, on n'est pas sur du discount. Alors, vous imaginez un peu la marge. Alors, on s'informe, on regarde les étiquettes et on achète local. Le slip français ou d'autres, hein. Enfin, sauf Patrick Bruel, qui ne porte pas de slip.
Merci, d'organisation. La bande originale,
Nagui, sur France Inter. Tanguy qu'on retrouve le 22 septembre à Belvigny, c'est en Vendée.
Voici, c'est par Patrick Bruel.
Voici l'interro. concernant la culture et tout ce qui se passe dans le monde littéraire, notamment Philippe Delerme. Vous pouvez éventuellement répondre à cette question. Domenico Starnone est un écrivain italien, ou Starnone, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui vient de publier son dernier ouvrage qui s'appelle « Les liens ». Mais pourquoi des millions de lectrices et de lecteurs l'ont peut-être lu sans le savoir?
Parce que c'est Elena Ferrante.
Exactement.
Ça pourrait être le.
Ce serait.
Elle, oui. Bon.
Ce serait. On y reconnaît le style, les sources d'inspiration entre la célèbre inconnue et le lauréat du prix Stregal, équivalent du prix Goncourt. Est-ce que les scandales littéraires comme ça, d'écrire peut-être un livre sous un autre nom et après de le révéler, ça vous est
Ouais, ça m'a traversé parfois parce que j'ai une passion, par exemple, pour un écrivain qui est à la fois très connu et très inconnu, qui est Charles Dickens, que l'on croit connaître, mais qu'on assimile à un auteur pour enfants, alors qu'en fait, il est incompréhensible pour des enfants, un type d'humour qui est très, très chouette. Moi, j'adore Pickwick et tout ça. Et parfois, ça m'a tenté d'écrire un faux Dickens, par exemple, parce que j'aimerais bien pratiquer ce type d'humour au long cours. Voilà.
C'était Philippe Barbeau qui avait écrit un livre en se faisant passer pour une adolescente de 13 ans, cornichon au chocolat, et après il avait révélé que c'était lui qui l'avait écrit.
Ouais, il y en a eu pas mal, il y a eu Jacques Laurent sous le nom de Cécile Saint-Laurent, il y a eu Romain Gary évidemment.
Ouais, donc, pour avoir deux fois le Goncourt,
Et puis en plus quand on a vraiment un style, en plus c'est assez balèze quand même. Ouais.
Mais sauf que Labro passe des week-ends déguisé en petite fille.
Le 12 septembre, La Poste sort un carnet de timbres, c'est demain, c'est-à-dire, un carnet de timbres particulier. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce carnet de timbres de La Poste, demain?
Une équipe de France?
Non.
On peut l'imprimer soi-même, ça c'est déjà le cas?
Non.
À l'effigie d'un auteur?
Ah oui, c'est vrai qu'on peut l'imprimer. Ouais. Ouais. Non, c'est pas littéraire.
C'est pas littéraire?
Hein. Non.
Il rend hommage à quelqu'un?
Tanguy, t'es avec nous?
Non, mais je réfléchis, parce que le timbre...
Laisse tomber, réfléchis pas, dis.
Vous voulez me répondre?
Ça rend pas hommage, non.
C'est pas personnalisé.
Ne colle pas.
Il est gratuit?
Non, au contraire.
Il est très payant.
Il y a 400 euros le timbre.
Non.
Il est en or.
Il a un prix, mais cet argent.
Va à une association.
Va Patrick Bruel pour nous. Non. C'est pour nous.
Non. Va à Air Production.
Non.
À celui qui reçoit la lettre.
Non, c'est une mission qui est célèbre.
Une mission. Dans l'espace, ils vont dans l'espace.
Non.
Non, une vraie mission.
Une mission, t'es Apollo, toi.
Une mission.
Philippe Delerme, vous n'avez pas d'idée, non?
Pas a priori.
Mission impossible.
C'est un truc caritatif.
Un carnet de 12 timbres qui va représenter des sites et des monuments emblématiques. Et
là, UNESCO.
C'est Stéphane Bern, là, c'est pour les monuments de France.
Exactement.
Mais tout va à Stéphane Bern.
Il mange à Il bouffe à tous les râteliers.
Mais c'est incroyable.
C'est pour financer la mission Bern pour la sauvegarde du patrimoine. Non, mais le patrimoine, ça doit trouver aussi un écho dans votre cœur.
Bah oui, bien sûr.
J'en ai rien à foutre.
Non, mais vous trouvez bien ce que fait Stéphane dans l'idée du loto, enfin, ou de la loterie, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, de récolter comme ça de l'argent pour financer, pour reconstruire ou sauver des lieux.
Bah oui, c'était plutôt une bonne idée, je trouvais.
Non, mais c'est mercantile. Il a été pointé du doigt quand même. Il y a eu mal de moqueries pour cette démarche.
Ouais.
C'est un succès.
Oui, bah après, bon, le succès en soi n'est pas forcément
gage de qualité.
Oui. Oui, absolument.
Je pense que Philippe ne veut pas s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'on peut passer à la question d'après.
Non, on ne va pas passer à la question.
C'est bon, on sait le coup.
Il y a un moment où il faut, toute la distance que l'on veut prendre, il y a un moment où il faut y aller. C'est Daniel Morin.
Courage les gars, courage. Allez, dans 40 minutes à peu près, la France jouera en Chine son quart de finale de Coupe du Monde de basket. Les Bleus affrontent les États-Unis. Et quand ton adversaire en basket, c'est les États-Unis. Bon ben voilà.
Ouais.
Voilà quoi. Alors oui, je sais, j'en ai même entendu dire à propos de ce quart de finale à venir. Ah, mais l'équipe de France a des atouts à faire valoir, même face aux USA. Moi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors si, croyez-moi, on est très très à l'abri. Ouais. Et je crois qu'on n'a jamais été autant à l'abri, hein, les amis. Là, on parle basket, on parle équipe américaine, on parle victoire, on parle punition. La phrase du baron Pierre de Coubertin qui dit « L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer ». Alors aux États-Unis, c'est une vanne, ça. C'est une blague. Quand les Américains entament une compétition, c'est pour gagner, c'est pour tout défoncer. Vous avez vu la Coupe du Monde de foot féminine, USA-Thaïlande 13-0.
À 5-0, normalement, tu te dis, c'est plié, on finit à la cool. Non! Les Américaines, non! Elles ont plié les pauvres Thaïlandaises, elles auraient pu leur mettre 30 buts, elles l'auraient fait. Le sport aux États-Unis, c'est la guerre. L'adversaire est un ennemi, on se contente pas de le blesser, on le tue. Alors à tous ceux qui disent, elle n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, je dis vos gueules. Allez, passons à présent une actu aussi réjouissante qu'incroyable. Rayon Musique, le numéro un des ventes d'albums en France, c'est Jean-Baptiste Guégan. C'est qui? Le sosie vocal de Johnny.
Ah.
Et le gars, il cartonne. Au printemps, il va entamer une tournée des Zéniths de France. C'est de la folie. 30 000 albums vendus en une semaine. Ouais. Un truc de malade.
C'est vrai, en plus.
Ah ça, le business des chanteurs morts, ça rapporte. Nom de Dieu, ça rapporte. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que France Inter, en association avec les Pompes Funèbres de France, présente Salut les Maccabées, un album hommage à nos plus grands disparus. Un album de reprises chanté par l'équipe de la bande originale. Vous y retrouverez vos tubes préférés avec Guillermo Cloclo.
Non, regarde ta montre, il est déjà 8h. Embrassons-nous tendrement.
Et comment ne pas frissonner avec la reprise pleine d'émotions de Leïda Lida.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme.
Salut les Maccabées, c'est aussi le sourire d'un de nos plus grands chanteurs décédé en 1978. Merci Tom Sardou.
Elle court, la maladie d'amour.
Quand nos disparus reviennent avec leur plus grand succès, ça fait chaud au cœur et surtout grâce au talent de Tanguy Znavour.
Ils sont venus, ils sont tous là, ils vont mourir, la maman.
Et dans la bande originale des talents, il y en a plein. Et bien sûr toi, avec attention, Nagui Montand.
Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Et cerise sur le gâteau, Salut les Maccabées rend hommage aussi à un chanteur vivant avec un invité de luxe, Philippe Delerme chante Vincent Delerme.
On a une relation comme ça, famille Ardente.
Ne vous privez pas les amis, offrez-vous le meilleur des chanteurs décédés avec Salut les Maccabées, un album signé la bande originale et bientôt en tournée dans tous les EHPAD de France. Sans me vanter les amis, je crois qu'on tient l'idée du ciel. À demain. Daniel Morin.
La bande originale avec Nagui.
Non, Vincent Delerme, heureusement, qui sera notre invité bientôt dans la bande originale à un nouvel album.
Le motel Minnesota et sur les fleurs.
Mais il chante plus comme ça.
Non, je dis heureusement, il fait pas partie des chanteurs de,
non,
de la compilation.
Dans la nuit, juste vouloir être à leur place. Juste sentir mon cœur qui bat.
Dans les projets que vous avez, Philippe Delerme, est-ce que vous avez l'intention de continuer sur ces gestes qui nous disent, que ce soit l'extase du selfie, et vous en avez déjà d'autres que vous n'avez pas mis dans ce volume, ouais, et que vous avez de côté? Oui.
Oui, il y a déjà, où il y a aussi des petites phrases qui me viennent. Et bien sûr que ça, c'est, ça fait partie de ma façon de rester en vie, d'avoir des projets de ce genre-là. Mais j'en ai un autre en fait. C'est justement avec les années qui viennent, je me suis rendu compte que il y avait une chose qui m'agaçait beaucoup. C'est ce qu'on appelle la mode du feel good en fait. Cette façon, cette espèce d'ataraxie qui est très très à la mode et très commercialement utilisée maintenant dans les rayons des librairies à la Fnac. Vous voyez dessous ce dossier rose et bleu ciel comme ça, avec cette zénitude absolue, transparence, tout ça.
Cette obligation au bonheur.
Cette obligation à un bonheur, mais un bonheur zen, comme ça, un bonheur sans saveur, complètement fade.
Et
je trouve que, précisément, la chance de passer un petit peu du temps sur la Terre, c'est qu'on vit plusieurs choses en même temps. Moi, je prétends que quand je vois le coup d'envoi d'un match de foot, puisque j'aime beaucoup les matchs de foot, je trouve qu'il y a plus d'intensité d'avoir en soi une grosse culture de tous les matchs qui se sont passés, de tous les possibles qu'il y a eu pendant les matchs. Et que j'ai envie de traduire ça, en fait. Le fait que les choses peuvent être en relief aussi. Il s'agit pas simplement d'une espèce de transcendance complètement azimutée comme ça.
Mais juste, je voulais dire, il y a une analyse du football et du geste du gars qui reçoit la balle, qui a été très mal envoyé en faisant pouce levé comme pour le féliciter d'avoir viandé complètement sa passe. J'ai trouvé ça très très savoureux.
Merci. Léa, justement, s'il y avait une chose à retenir de la venue de Philippe Delerme,
c'est dur parce qu'il y a tellement de textes moi qui m'ont plu. Alors je pense que je vais être nostalgique, je vais parler du porte-clés disparu de mon environnement et que je voyais avec fascination quand j'étais petite et je me disais quand je serai grande. Pour moi, la liberté, c'était non pas d'avoir plein de choses, c'est d'avoir ce fameux porte-clés, d'avoir des clés à l'intérieur. Ça voulait dire que j'allais avoir un toit, j'allais avoir une
autonomie aussi.
Une autonomie.
Il y a une porte.
Voilà. Ouais. J'adorerais retrouver un porte-clés.
Daniel Mora, qu'as-tu retenu de cette émission?
Ben, quand on écoute Philippe Delerme, on a l'impression qu'il a inventé un concept, c'est l'hyperactif statique.
C'est pas faux.
Tanguy Pastureau.
Eh bien, que nous avons eu Philippe Delerme, que bientôt nous aurons Vincent Delerme, son fils. Et alors, vous avez oublié de dire que le 7 novembre, nous recevons Kevin Delerme, le petit neveu de Philippe Delerme.
Et Martine pour ses livres.
Et ben voilà. Tom Villa.
Qu'il n'aime pas l'eau, mais qu'il va à Venise, et ça, je trouve ça chouette.
Guillaume Guise.
Que dans ses choix musicaux, il n'a pas pris son fils, donc est-ce qu'on va avoir un problème d'héritage?
Est-ce que, Philippe Delerme, il y a une phrase que vous aimeriez entendre de l'un de vos lecteurs ou de vos lectrices, après vous avoir lu, vous aimeriez qu'il dise quoi?
Mais en fait, ce que j'aime bien entendre, c'est que quelqu'un me dit qu'à propos d'une chose, d'une phrase, ou d'un geste, ou d'une petite chose, ça c'est juste, c'est vraiment juste ça. Parce que pour moi, en fait, c'est une espèce de caution.
C'est le cas, Philippe, vous le savez, et tout oui, cela, on l'avait, on pas, vous l'a dit, on l'a vécu.
Alors parfois, non mais en même temps, bon, par exemple quand j'avais fait la distinguo entre la bicyclette et le vélo, il y a souvent des gens qui m'ont dit « Ah ben non, pour moi la bicyclette c'est pas tout à fait ça ». C'est fait aussi, voilà, ça peut être interactif. Hein. Ouais. Mais en tout cas, quand quelqu'un a ressenti la justesse d'une chose, je me dis que ça cautionne un peu l'ensemble de la démarche. Quoi. Donc ça me fait plaisir.
Des excuses à présent.
Désolé pour tous les fidèles auditeurs d'Inter qui ont cru qu'on était en grève. Ouais, ouais, quand ils ont entendu la playlist de la station. Ah ouais, Souchon, Fercel, La Pointe. Non, c'était la bande originale choisie par Philippe Delerme et les programmateurs, les gars. Désolé, mais ça sent un peu le roussi pour vous. Désolé pour Nagui, purée, j'ai eu la direction de France Inter à la pause et je peux t'annoncer, je cite hein, Lolo Ladirlo, qui a dit « La boucle est bouclée, Philippe Delerme aura été votre invité zéro, mais ici votre dernier invité. » Bon, ça va, il te reste deux, trois trucs sur France Télé et bien sûr ta production chez Jackie et Michel. Désolé pour tous les...
La plus rentable.
La meilleure. Désolé pour tous les cyclistes qui vont prochainement croiser la route de Tom Villa et Philippe Delerme. Fuyez, les gars, ils n'ont qu'une haine et une envie de mort, votre gars. En même temps, mon petit coquin de Philippe, on m'a dit vous avoir vu dimanche dernier, vers 16h, à vélo, sur la départementale entre Cerquigny et Beaumont-le-Roger. Hein? Alors?
Exact.
Et aussi, pas désolé, mais un merci à tous ceux qui ont participé, surtout vous, Philippe Delerme, à la promotion de ce superbe album à venir. Salut les Maccabées.
Philippe Delerme, l'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, c'est publié au Seuil et c'est extrêmement agréable à lire et on s'y reconnaît et on s'analyse encore un peu plus, même dans les gestes qui n'y sont pas, c'est-à-dire que c'est un regard sur soi qui est très enrichissant. Merci
à vous,
Philippe Delerme, d'être venu et pour l'anecdote, mais je pense que vous êtes au courant, Vincent Delerme, votre fils et Alain Souchon feront un duo dans Taratata à la fin du mois de septembre,
pas encore.
Et j'en suis extrêmement fier.
C'était une surprise pour Philippe.
Demain, c'est Zabou Breitman qui sera notre invité. Nous parlerons cinéma et théâtre avec ses réalisations et ses mises en scène. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Voilà. Pardon pour ce retard.
On y va à bicyclette.
Ah ouais.
Salut les amis.
Salut Philou.